France Inter. Le masque et la plume. Une diva sans voix, un film monument qui fait la une de la presse ou des cahiers critiques, un premier long métrage, un récit de l'exil à Marseille, plus le retour de Bridget Jones, quinquagénaire, telle est l'affiche du masque de ce jour, installé côte à côte et face à face. J'ai le plaisir d'accueillir Xavier Le Herpeur de la revue La 7ème Obsession et de France Inter, Nicolas Chalère du Nouvel Obs, Ariane Allard de la revue Positif et Charlotte Lipinska de Télématin. Si je détaille notre programme, nous parlerons de The Brutalist de Brady Corbet, La mer au loin de Saïd Hamish Benlarbi, Maria de Pablo Larraín, La Pampa d'Antoine Chevrolier et Bridget Jones, Folle de lui, le cinéma dans vos oreilles. C'est parti pour un nouvel épisode du Masque. L'autre jour, m'écrit Laurent, j'emmène mon amoureuse voir Les Feux Sauvages de Jia Zhongke. Je le lui présente en disant « C'est un film chinois, encensé par les critiques du masque. » Elle me répond « Ces intellos de gauche parisiens ?» Finalement, elle n'a pas regretté d'y être allée. Elle s'est endormie au bout de 10 minutes et s'est réveillée bien reposée vers la fin. Madame Manzoni, peut-on se mettre d'accord avec les critiques pour prévenir les auditeurs quand un film risque d'être un peu ennuyeux ? Enfin, chiant quoi ? Clarifie Laurent entre parenthèses. Vous pourriez dire, ouvrez les guillemets, c'est un film exigeant. Et nous comprendrons qu'il s'agit d'un film pour public averti. En d'autres mots, un film, comme dit ma femme, d'intellectuel de gauche parisien. Merci. Un parfait inconnu de James Mangold avec Timothée Chalamet dans le rôle de Bob Dylan a vraisemblablement eu raison de vos réticences. Jean-Charles Khalifa précise être fan de Dylan et détester Chalamet. C'était donc plutôt mal parti. Mais rapidement, écrit Jean-Charles, je me suis laissé happer. Chalamet m'a surpris. La reconstitution du Greenwich Village des années 60 est convaincante. On peut jouer au jeu des 7 erreurs, mais, je cite, c'est un grand film de femmes et un grand film sur la jeunesse. Pierre Cusor, qui, quant à lui, n'aime ni Dylan, ni Chalamet, c'était donc très très mal parti, estime qu'il y a plus de musique que de cinéma dans ce biopic pas mal filmé, je cite. J'ai entendu plus de chansons de Bob Dylan en 2h20 qu'en 55 ans, écrit Pierre. Et le film m'a surtout donné envie d'écouter John Baez. Vous êtes divisé au sujet de Jouer avec le feu de Delphine et Muriel Coulin. L'histoire d'un jeune homme, excusez encore ma voix grippée, qui bascule dans l'extrême droite et la violence. Valérie Pépin de Lyon et Jérôme Duvivier de Lyon aussi déplorent un film tire-larme, plein de clichés, tandis que Fanny Drouin trouve au contraire le propos très juste. Cette auditrice rappelle les enjeux de ce film. Comment peut-on enrayer le glissement d'un fils dans la violence d'extrême droite? Comment continuer à aimer malgré les actes? Ce lien filial et cette interrogation sont traités avec une mise en scène et une interprétation magnifique, selon Fanny. Enfin, vous aimez La Pivoleuse de Robert Guédiguian avec nuance. Le mail d'Eric Angelica est représentatif de vos sentiments. Je vous en lis des extraits. Chez Guédiguian, il y a toujours une vieille photo dans un cadre pour rappeler qu'on s'est beaucoup aimé dans le temps. On y va à reculons voir cette pivoleuse en se disant qu'on a déjà tout vu de Guédiguian et surtout le meilleur. Et on finit par se laisser cueillir. Parce que chez Guédiguian, ils sont un peu comme nous, les gens. Il se débrouille avec les enfants, avec l'amour, avec l'argent. Mais comme on est dans un conte, le temps peut s'arrêter et ça peut s'arranger. Signé un cinéphile marseillais exilé à Dunkerque, chauffé et réchauffé par le masque. On commence avec The Brutalist, film événement de Brady Corbet avec Adrien Brody dans le rôle principal. Film événement par son ampleur, 3h35 avec entr'acte, pour raconter 30 ans de la vie d'un personnage de fiction, Laszlo Toth, juif hongrois rescapé de la Shoah, qui débarque aux États-Unis en 1947. Laszlo Toth est architecte et à son arrivée, il est accueilli dans le magasin de meubles de son cousin à Philadelphie. Ensemble, ils répondent à une commande d'une famille richissime pour construire une bibliothèque. Le patriarche de la famille, les Vire, avec pertes et fracas, avant de rappeler de Laszlo, pour concevoir un bâtiment en mémoire de sa mère. Le film est déjà auréolé de plusieurs prix, Lion d'argent à la Mostra de Venise, Golden Globes, il est nommé 10 fois aux Oscars, tandis que Brady Corbet était jusqu'ici un réalisateur très peu connu et qui, depuis, est largement porté au nu. Charlotte, comment as-tu vécu ces 3h35 avec Entracte ?
Alors, comme une lettre à la poste. Mais vraiment, il faut le dire, n'ayez pas peur, ça passe tout seul. Et c'est vrai qu'avoir un entracte au bout d'1h40 de film, 15 minutes avec un décompte à l'écran, on a le temps de se dégourdir les jambes, d'aller faire pipi, tout va bien. Moi, j'avais qu'une envie, c'était que le film reprenne. Donc, on peut avoir l'impression d'avoir vu 2 films à la suite, mais évidemment, c'est le même. Non, vraiment, n'ayez pas peur de la durée. Franchement, des films comme ça, évidemment, on aimerait en voir toutes les semaines. Je crois qu'on n'en verra pas 3 dans l'année. Né à ce niveau-là, c'est très très impressionnant. Moi, ça m'a fait l'effet tout de suite d'un classique, quoi. C'est-à-dire qu'on pense à Cimino, on pense à There Will Be Blood. C'est impressionnant à quel point il arrive à mêler un récit intime, le portrait de cet homme qui tente de se reconstruire. La question est comment on survit à l'horreur et à la Shoah, et un récit collectif de cette Amérique de façade avec le rêve américain et cette tradition d'accueil des étrangers. Qui évidemment, quand on gratte, va se résumer en une réplique cinglante, c'est « ici, on vous tolère ». Cette réplique est dingue et ça ne va être que la désillusion et l'amertume du personnage de cet architecte dans la deuxième partie. En fait, dès le début du film, tout de suite, je me suis dit « oh là là, il va se passer quelque chose », c'est-à-dire qu'on voit la statue de la liberté à l'envers.
Et ça, c'est une image
de Traviole.
Ça, c'est la première image du film et c'est déjà la promesse de ce qui va
voilà.
se passer.
Et déjà, la tête à l'envers. On se dit « c'est une Amérique à l'envers ». C'est un générique qui défile de manière horizontale. C'est très beau, c'est assez stupéfiant, puisqu'il va y avoir une mise en scène, évidemment, un peu en adéquation avec ce fameux mouvement du brutalisme dont l'architecte se réclame. C'est très, très beau. C'est une mise en scène qui est ample et en même temps au scalpel, parce qu'elle est viscérale, elle est au plus près de ses protagonistes. C'est un rôle, évidemment, dément pour Adrien Brody, qui prolonge un peu celui du pianiste. C'est très difficile de ne pas y penser, bien évidemment, mais ce serait presque comme un écho, une réminiscence du pianiste de qu'est-ce qui se passe après. Et puis, un travail du son qui est dingue. C'est-à-dire, il y a l'image. Le film, en plus, a été fait avec un tout petit budget. Je crois que c'est 10 millions de dollars. Autant vous dire que c'est vraiment c'est de l'argent de poche.
Rien du tout.
Quoi. Mais, le budget hamburger sur un Marvel.
Mais c'est ça, c'est un pourboire. Quoi. Et c'est stupéfiant visuellement. Il y a de l'inventivité, c'est beau, c'est romanesque, c'est épique. Moi, je suis dingue de ce film.
Et la presse est quasi unanime. Est-ce que tu participes à cette unanimité, Xavier ?
Je vois dans tes yeux qui pétillent que tu sais déjà que je suis à peu près le seul. Non, je suis soutenu par Louis Guichard de Télérama. Ça m'a beaucoup rassuré quand j'ai vu que je n'étais
pas
totalement isolé devant ce film parfait, mais parfaitement, comme disait le monsieur, exigeant. C'est ça, pour ne pas dire chiant et ennuyeux et emmerdant.
Mais non, on n'est pas ennuyeux une seconde.
Je vais terminer
pas
mon propos.
Ennuyeux.
Vous êtes en train de discuter sur... C'est un film contre l'intolérance et tout ça, et vous m'interrompez au bout de 2 minutes. Je vais aller au bout de mon propos.
Vas-y.
Je vais y aller avec la délicatesse du metteur en scène, c'est-à-dire, je vais monter dans ma tractopelle et je vais avancer et foncer, et je vais bien prendre le pouvoir dès ce premier plan que vous trouvez sublime, qui est quand même d'une lisibilité mais impressionnante. On a l'impression que le film est fait pour ceux qui ne comprennent pas bien le cinéma. C'est-à-dire que tout est spécifié, tout est surligné, tout est indiqué. Il y a constamment des flèches comme ça à l'intérieur du cadre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut regarder. Moi, je n'ai rien à faire là-dedans, mais rien. À la fois comme spectateur et comme en même temps être humain, ça devrait me passionner cette histoire. Et j'en suis, mais alors totalement éloigné, je suis hermétique à tout. Oui, c'est quelqu'un qui me montre qu'il a le pouvoir, qu'il fait des images très belles, c'est vrai qu'elles sont absolument magnifiques. Et en même temps, au bout d'un moment, je me dis, donc, c'est passionnant, le type est sorti des camps, il est allé aux États-Unis, il subit à nouveau l'antisémitisme, effectivement, des WASP américains. Tout ça devrait me mobiliser, vraiment m'indigner. Et je me dis, mais en fait, tous les éléments biographiques de ce type-là, les plus intéressants sont d'ailleurs réservés pour l'épilogue, où on apprend plein de choses qui auraient été beaucoup plus utiles dans le récit, me semble-t-il.
Et non, justement.
Avant.
C'est ça qui est intelligent.
Bah, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a manqué. Et au moment, on se dit, en fait, il a choisi.
Donc tout n'est pas lisible, donc.
Il a choisi.
Donc tout n'est pas lisible.
puisqu'on apprend à la fin.
Non, mais ce qui n'est pas lisible, c'est effectivement les superficies, les surfaces qu'il a utilisées pour construire cette maison et qui sont en référence directe aussi avec les cellules de l'Holocauste. Ah non, voilà, ça y est, c'est dit. Moi, ça m'intéresse plus que de savoir. Et en même temps, voilà, je termine ma phrase. Putain, vous allez m'abuser après. Vous direz, c'est un truc contre l'intolérance. Alors, vous êtes les premiers, hein. Il n'a choisi d'éléments biographiques que les instants qui pouvaient supporter sa mise en scène extraordinaire, brutaliste, monumental. Donc il y a un moment où tout est à pied d'égalité, et je suis désolé, mais le film n'a pas beaucoup d'intérêt, contrairement à ce que son côté Maus costaud essaye de nous faire croire.
Et il n'est pas question ici d'intolérance, mais de débat critique, ouais, Ariane.
Mais non, il s'interrompt. Vas-y, parle.
Oui, absolument.
De cette façon-là, c'est vraiment très autoritaire, je trouve. Donc, c'est pas du tout un débat.
C'est qui est le brutaliste.
Voilà, c'est toi qui es brutaliste.
C'est vous qui avez interrompu, j'adore.
C'est à toi, Ariane.
Oui, non, moi, je trouve pas du tout. Je trouve qu'il y a sans arrêt de l'ambiguïté dans ce film. Je comprends pas pourquoi tu dis que tout est fléché. Ne serait-ce que la relation entre ce milliardaire et cet architecte, qui neige. Et bien sûr qu'il y a une relation de domination et d'humiliation. J'irai pas jusqu'au bout, parce que, effectivement, les choses se nouent et se dénouent dans la deuxième partie. Et moi, elles sont tellement violentes qu'elles m'ont violentée, et je ne m'y attendais pas. Mais c'est quand même un film. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on dit de ce film qu'il est monumental. Je trouve qu'à aucun moment, il est écrasant.
Mais il le dit lui-même, c'est pas nous qui disons ses metteurs en scène.
Il est sidérant, il est tout ce que tu veux, mais en aucun cas, il écrase. Bien sûr qu'il utilise un truc qui ressemble un peu au cinémascope, donc il y a une image qui est quand même très ample et assez monumentale. Mais pour autant, parce que ça raconte ce que ça veut raconter. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un architecte brutaliste, et à travers ce parcours, qui est une série quand même de violences les unes après les autres, ça raconte la brutalité du monde. C'est un monde qui, en plus, dans ce genre de cinéma, c'est-à-dire un cinéma épique, américain, qui s'inscrit dans un sillon, vraiment, c'est la grande histoire, ça commence bien avant Cimino, ça commence à Griffith, ça commence à tout ça quand même, tu vois, jusqu'à aujourd'hui Paul Thomas Anderson. C'est un monde qui n'est quasiment jamais montré, c'est-à-dire cette Amérique raciste, antisémite, frileuse, et qui rejette l'étranger sous couvert, soi-disant, de melting pot. Ça, moi, je ne l'ai jamais vu montrer de cette façon-là. Par ailleurs, je voulais dire que tout le monde parle d'Adrienne Brody, mais Felicity Jones, qui fait sa femme, elle est exceptionnelle.
Parce qu'il y a une histoire de couple, très belle.
Très belle. Et elle aussi va subir aussi les avanies, les humiliations de ce milliardaire. Il y a une scène que moi, je n'arrive même pas à oublier. Le film, je l'ai vu à la Mostra de Venise, donc il y a au moins 4 mois. Je n'oublierai jamais cette scène d'humiliation et de résistance de sa part, qui vers la toute fin du film, je ne divulgage pas. C'est un film qu'on peut voir, revoir, même s'il dure 3h30, on reste dans le même état de sidération et en même temps de fascination. Moi, j'ai rarement vu un film comme ça.
Est bien d'accord, si tu n'oublies pas cette scène, c'est qu'effectivement, la mise en scène s'arc-boute dessus et fait tout pour...
Non, parce qu'elle arrive qu'à la fin.
Donc, c'est exactement ce que je reproche au film.
Elle arrive tout à la fin, cette scène. Mais bien sûr que si, dans la deuxième partie.
Ça t'a mis dans quel état, toi, Nicolas ?
Mais moi, je trouve que c'est un grand film. On en voit peu des films comme ça. Et j'ai mis du temps, moi, à rentrer dedans. Parce qu'il y a vraiment, pour le coup, il y a 3 actes qui sont très hétérogènes et qui sont passionnants. Le premier acte, c'est une sorte de Paul Thomas Anderson. On se dit, c'est un de Paul Thomas Anderson, mais on ne sait pas trop encore ce qu'il a raconté. On ne comprend pas bien les enjeux des scènes qui coupent parfois des moments. C'est là où ce n'est pas du tout, comme le dit Xavier, il n'assène pas de manière presque académique son propos. C'est qu'il y a des moments, on ne sait même pas la teneur de la scène, on ne sait pas vraiment où il va, parce que ce personnage est paumé au début. Et petit à petit, dans la deuxième partie, le film fera un autre virage, il va plus dans quelque chose de beaucoup plus excessif et les choses se libèrent. Et là, on est assez surpris par certains tournants que prend le scénario. Et cet épilogue qui est assez passionnant parce qu'il nous donne plein de clés qu'on n'avait pas avant. Et le film, quand même, garde sans cesse un mystère. C'est ça qui est très beau. C'est à la fois, il empoigne une forme assez classique comme ça, qui apparaît monumentale, mais qui n'est jamais traitée avec monumentalité. Non. C'est-à-dire que, effectivement, le film a l'air de l'être, mais il est toujours vu par un bout de lorgnette, par un sens du cadre très, très précis. Et c'est un film sur la domination et l'impuissance à la fois sociale, sexuelle, parce qu'il y a quand même la sexualité très importante dans le film, pour en parler.
Oui.
Cette musique qui est presque, elle n'est pas incessante, mais elle est presque toujours là, comme le temps qui passe avec des déclinaisons très, très, assez passionnantes.
On
passe de moments de jazz, de piano jazz à des moments dissonants, presque bruitistes, qui racontent le temps qui passe et en même temps les douleurs qui parsèment le film. Enfin, le film est vraiment absolument passionnant. Moi, je l'ai vu il y a 2 mois maintenant. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le temps d'aller le revoir. Et c'est un film qui n'est pas si facile que ça. ça, comme, parce que quand on dit monumental, on a l'impression que tout le monde va, que tout est, voilà, tout est clair et tout est asséné. Non, 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 c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus mystérieux que ça. Et ça raconte beaucoup, beaucoup de choses sur l'Amérique,
d'aujourd'hui.
Et d'aujourd'hui
oui,
aussi.
Oui, ce dialogue complètement avec la
et Guy Pearce, on n'a pas parlé de Guy Pearce, qui, moi, m'a fait rappeler.
Qui joue le milliardaire.
Qui joue le milliardaire, c'est, qui m'a fait rappeler Henry Fonda ou James Mason, une espèce de présence patriarcale, là, très, assez, c'est un grand film.
Le micro circule, si vous souhaitez intervenir dans cette tribune dédiée. Oui, c'est Guy. C'est ça, hein ? C'est Guy, vous avez l'habitude d'intervenir. Bonjour. Non, mais je vous reconnais, Guy.
On s'en fout complètement.
Mais non, on s'en fout pas parce qu'il y a un auditeur qui m'a écrit, mais qui m'a dit, dites donc, le monsieur qui intervient régulièrement dans le masque, c'est vous qui l'avez employé ou pas ? Alors, je tiens à préciser que non, vous êtes là très régulièrement et vous prenez la parole.
Donc, j'ai une formation de designer et d'architecte.
Ouais.
Donc je m'attendais à une psyché sur les architectes beaucoup plus pointue que ce que j'ai vu. Il s'avère que ce monsieur qui sort du Bauhaus, hein, en gros, si je schématise le Bauhaus, c'est des baies vitrées. Et ce type-là, je ne sais pas pourquoi, il va tomber dans la tendance brutaliste, c'est-à-dire à l'opposé, c'est-à-dire tout béton. Je rappelle que ce type s'appelle Laszlo Todd. Laszlo, c'est comme Mahogany Nagy du Bauhaus. C'est celui qui fait ce graphisme oblique, pour ceux qui s'étonnent que tout est oblique, y compris l'entrée. Et Todd, ça rappelle le type qui a construit le mur de l'Atlantique en béton.
Merci pour votre intervention. C'était donc la tribune consacrée à The Brutalist de Brady Corbet. Et voici venir Maria, du cinéaste chilien Pablo Larraín. Alors Pablo Larraín s'est déjà intéressé à deux icônes féminines du XXe siècle, à savoir Jackie Kennedy et Lady Di. Et comme l'indique le titre de ce nouveau film, voici Maria Callas, qui a le visage et la silhouette d'Angelina Jolie. Pablo Larraín prend le parti de filmer les derniers jours de la Callas. Nous sommes donc en 1977. Maria est cloîtrée dans son appartement, immense, du 16e arrondissement. Elle vit avec son majordome, Pierre Francesco Favino à l'écran, et sa cuisinière, incarnée par Alba Rohrbacher. La Callas a perdu sa voix et elle se souvient de plusieurs moments de sa vie, évidemment sous forme de flashbacks, notamment des flashbacks consacrés à son histoire d'amour malheureux avec Aristote Onassis. Alors entre Bob Dylan, Robbie Williams, Charles Aznavour, et j'en passe, décidément on n'en a pas fini avec les biopics. Jusqu'ici, Pablo Larraín en proposait des formes plutôt originales. Alors qu'en est-il pour Maria, Xavier ?
Disons que c'est un film d'une beauté absolue, d'une intelligence assez stupéfiante et d'une froideur totale. Donc, quelque part, il est très réussi parce que ces trois caractéristiques correspondent très très bien à Maria Callas, d'une certaine manière. Donc cet effet d'écho dans la construction de la mise en scène avec le personnage, moi, m'intéresse parce qu'il l'assume complètement. Te dire qu'après, effectivement, Jackie Kennedy et Lydia, on n'a pas, maintenant, on commence à comprendre un tout petit peu le principe et le système de Pablo Larraín. Néanmoins, moi, il y a quand même quelque chose qui m'intéresse toujours dans son écriture. Il y aura un mais, je vous rassure quand même, hein, tout de suite. C'est, il filme, il écrit ces femmes au moment où non seulement elles sont des icônes, le mot que tu as employé est d'une grande justesse, elles commencent à être des légendes, parce que l'histoire amplifie effectivement ce qu'elles ont vécu, les tragédies, et d'elles-mêmes, elles répondent à ça en construisant leur propre mythe. C'était absolument passionnant avec Jackie Kennedy, où elle, effectivement, elle commençait à dire qu'elle allait orchestrer d'une certaine manière l'enterrement, le deuil, de manière à pouvoir justement récupérer quelque chose qui allait lui être dérobé. Là, Maria Callas, elle se dit « je n'ai plus de voix, les gens ne m'aiment plus, je suis une espèce de fantôme, je ne peux plus me produire, mais je vais quand même continuer à jouer la Callas ». C'est-à-dire, elle commence à jouer son propre rôle. Et là, il y a quelque chose que je trouve malheureusement pas assez émouvant pour transcender complètement la froideur du film, mais c'est une réflexion, c'est une construction que je trouve extrêmement intéressante, qui va jusque dans les décors. Là, en revanche, moi, je l'ai trouvé assez intéressant, où elle est constamment comme une petite scène, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans son salon. C'est-à-dire qu'elle se meut comme si elle était elle-même l'héroïne d'un opéra qui ne sera jamais écrit sur elle, mais dont elle serait effectivement l'incandescente interprète.
Et l'appartement a l'air d'un décor d'opéra, d'ailleurs.
Mais complètement. Même dans la cuisine, il y a des arrondis, enfin, on a l'impression. Angelina Jolie, malheureusement, voilà, est très dans le mimétisme, ce qui est très intéressant.
Mais on la voit faire.
On la voit faire. Les deux comédiens que tu as cités, Alba Rohrbacher et Pierre Francesco Favino, qui sont les domestiques, là, subitement, on apporte de la tragédie, puisqu'ils sont, d'une certaine manière, les confidents de cette chute, de cette désertion. Mais le film reste terriblement froid, il n'y a pas d'émotion.
T'as été émue, toi,
non,
Ariane?
Non, pas une seconde.
Merci, okay, bien, quand alors. On n'est pas interrompu.
Et, bah oui, t'as vu qu'on t'a laissé parler, quand même.
Ah bah, il fallait vraiment qu'elle
mange. Il va falloir vous interrompre par la suite et accélérer un petit peu.
Voilà.
C'est beaucoup
de temps
sur de brutalistes.
Non, moi, je pense que c'est un rendez-vous manqué. J'ai préféré, évidemment, les biokips précédents de Pablo Larraine. Je trouve qu'en fait... En voyant le film, je me disais, c'est vraiment dommage. Moi, j'ai eu l'impression que le film était complètement engoncé, verrouillé, dans cette espèce d'esthétique effectivement opératique. Alors, tu parlais d'un film qui était sursignifiant et sursignifié parlant du brutalisme. Alors là, si on n'a pas compris dès la première image qu'on était dans un opéra, qu'on était sur une scène de théâtre, c'est que vraiment on est nié ou qu'on ne comprend rien au cinéma.
Mais c'est complètement assumé.
Voilà. Oui, mais c'est complètement assumé, mais c'est complètement raté. Parce qu'il se passe un truc que je trouve très beau au départ et qui aurait dû le rendre le récit absolument déchirant, c'est que on nous raconte cette espèce d'éclat singulier qu'ont les dernières fois. Parce que c'est un baisser de rideau d'une diva. Ça devrait être absolument poignant et déchirant. Ça ne l'est jamais. J'ai plusieurs explications, mais j'aurais pas le temps, mais j'en donne une. C'est que je pense qu'en fait, Pablo Larraine, il filme non pas Maria Callas, est-ce qu'elle fut et ce qu'elle sera à jamais, il filme Angelina la Jolie, qui, par cette performance, redevient la star qu'elle a été un temps et qu'elle ne sera pas forcément pour l'éternité, elle. Et moi, quand je vois ce personnage,
elle
je vois Angelina
pareil, hein.
Jolie, je ne vois pas Maria Callas. Et c'est terrible, parce que le générique de fin nous donne quelques images documentaires d'archives de Maria Callas.
C'est cruel.
Et en deux... Mais c'est hyper cruel, jamais faire ça.
Nicolas,
erreur
t'es d'accord
de débutant.
Non, mais je rejoins Ariane et j'avais beaucoup aimé Jackie et avec le temps, alors il s'est un peu spécialisé là-dedans, Pablo Larraine, et ça décline, et là vraiment il y a vraiment un problème, c'est-à-dire qu'en plus ce choix de, il assume pas vraiment le choix de l'opéra, c'est-à-dire qu'à un moment effectivement ça commence par sa mort, donc on se dit ok on va être dans un opéra dans cet appartement assez fou, et en même temps il y a un plan mais qui dure, le premier plan il dure une plombe, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, il y a le médecin, il y a le brancardier qui vient la chercher, dans opéra il y aurait de la musique, il y aurait un enjeu, et là déjà il y a un problème, le film a un vrai problème de point de vue, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une déambulation dans sa psyché meurtrie qui vire à une espèce de panégyrique muséal pour lecteur de Paris Match, c'est vraiment gênant, mais les changements de pellicule et de couleur et tout, du formidable chef op Ed Lachman, directeur de la photo, ne changent pas grand-chose, et là-dedans, il y a deux personnages qui sont très forts parce qu'ils sont défendus par des acteurs qui sont Pierre-Francesco Favino et
Alba Rocher,
qui jouent les deux, le majordome et la cuisinière. Et on aurait presque aimé que le film adopte leur point de vue, faute d'en avoir un, quoi, parce qu'il y a un vrai problème de...
Est-ce que toi, Charlotte, tu serais prête à sauver Maria ou
Non. C'est-à-dire, le film, j'avais l'impression de toucher du marbre, quoi. C'est très beau, mais c'est froid. Je rejoins Xavier, c'est extrêmement froid. C'est vrai qu'on a ce labyrinthe mental crépusculaire, même au-delà de crépusculaire, c'est le film d'une agonie de ces derniers jours. Je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je vais quand même sauver, moi, quelques scènes que je trouvais visuellement vraiment très très belle, quand Maria Callas déambule ou se promène seule dans Paris, donc dans les années 70, et qu'en fait, comme elle ne vit, elle ne respire que par l'opéra, les passants les qui sont là de Place du Trocadéro ou ailleurs deviennent des chœurs d'opéra, et donc sa déambulation parisienne devient une scène d'opéra, et ça c'est des moments que je trouve très très beaux. Et je vais rajouter aussi Valeria Golino, si ma mémoire est bonne, qui joue sa sœur, qui est une scène là pour le coup dans une réminiscence que je trouve très belle, et incarnée, une des rares scènes en effet assez incarnée du film.
Est-ce que quelqu'un dans le public souhaite prendre le micro pour parler ou chanter concernant... Oui.
Bonjour. Alors moi j'ai trouvé que c'était un très beau film qui nous plonge totalement dans l'univers de la diva. Et visuellement, c'est magnifique. Les costumes sont chics et sophistiqués à l'image de la chanteuse. Et j'ai beaucoup apprécié les changements de couleurs qui passent du noir et blanc à des teintes plus douces, presque roses. Et ces alternances de couleurs accentuent le côté poétique et tragique du film. Ce qui m'a déplu, c'est les nombreux flashbacks qui peuvent nous faire perdre le fil de l'histoire. Et également les fausses images d'archives qui ont été ajoutées au film. J'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'à la fin, ils en ont mis des vraies. Et ça aurait été plus pertinent de les mettre dans le film.
Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que je peux vous demander votre âge ?
15 ans.
Merci. C'était donc Maria de Pablo Larraine. Et on va parler maintenant de La Pampa, premier long métrage d'Antoine Chevrolier, qui jusqu'ici avait créé et réalisé la série Oussekine, plus des épisodes du Bureau des Légendes ou de Baron Noir. La Pampa, c'est le nom du terrain d'un village du Maine-et-Loire où Jojo s'entraîne pour des compétitions de motocross. On ne sait pas vraiment si c'est un sport qu'il a choisi. Ce qu'on sait, c'est qu'il est ami avec Willy. Jojo conduit la moto et Willy est mécano. Le père de Jojo, interprété par Damien Bonnard, est obsédé par les victoires possibles et il fait appel à un coach, Artus, à l'écran, pour entraîner son fils. Une nuit, Willy découvre le secret de Jojo et c'est depuis son point de vue que le film va se déployer. Le film donc est porté par un duo de jeunes acteurs, Amaury Fauché, dont c'est la première fois au cinéma, et Saïd El Alami, qui est vraisemblablement l'une des révélations de l'année qu'on a notamment vu dans Leurs enfants après eux. Nicolas.
Eh ben, comme disait la chanson,
oui.
C'est quoi la chanson? C'est pas la bala et la pampa, c'est necesita una poca de gracia.
Tu t'es lancé dans quelque chose de.
On entend le baya de Véronique Sanson dans le film.
On entend baya.
Bah oui.
Non, mais c'était pour dire que ce film nécessitait une grâce, comme dit la chanson.
D'accord.
Que Antoine Chevalier, dont Antoine Chevalier fait à ses preuves, et c'est assez réjouissant d'ailleurs, car le film s'inscrit, au départ, moi j'ai eu un peu peur, ça s'inscrit quand même dans un cinéma, un jeune cinéma français qui raconte les régions. Moi, ça m'a fait penser un peu à Vindieu. Alors, c'est pas la même tonalité, mais il y a quand même pas mal de points communs, de même thématique. Et il y a vraiment, dans le jeune cinéma français aujourd'hui, vraiment ce goût d'aller raconter. Bah, on a parlé des enfants, de leurs enfants après eux. On pourrait même parler.
Dans le Nord.
Voilà. Et le film est plus malin et sensuel que ça. Et plus. Notamment parce qu'il s'arrime vraiment au regard de ce personnage son prénom va me revenir.
Willy,
merci beaucoup. Ce personnage qui en fait qui à la fois qui est observateur, qui subit et qui en même temps va du coup endosser son propre va se décider à prendre un peu sa vie en main, et je trouve assez beau. Il me fait penser d'ailleurs c'est un personnage plein de bonne volonté, c'est un mec bien qui a des douleurs, qui il y a encore l'absence du père comme dans Vindieu aussi, enfin c'est il y a beaucoup de points communs comme ça. C'est un film sur l'absence des pères ou sur les pères qui sont pas là au bon endroit, et la manière dont le film déroule ça avec des petits détours de scénario parfois pas forcément attendus. Et vraiment, ça rime à ce personnage-là. Je trouve ça assez beau. Il y a vraiment voilà. Je ne sais plus ce que je.
Alors je passe passe la parole à Charlotte.
Oui, c'est vrai que sur le papier, on pourrait avoir peur d'un récit un petit peu convenu sur le coming of age, de territoire. Et en fait, je trouve que le scénario se déploie pas du tout là où on l'attend, avec un changement de point de vue en cours de film qui est assez surprenant. Et puis tout ça est porté par une mise en scène extrêmement nerveuse, viscérale, énormément de tendresse sur tous les protagonistes, même ceux qui sont pas très sympathiques. Il est beaucoup question aussi de masculinité toxique même dans ce récit. Et on sent que le réalisateur, quand même, les aime, les connaît. Il n'y a pas de jugement. Et je trouve que la manière dont... En fait, le film nous parle de la violence du collectif face aux singularités des individus. Et avec ce... quand même cette chose assez rare au cinéma, c'est-à-dire que quand on s'extrait de son milieu, c'est pas tant par une volonté personnelle que par contrainte. C'est-à-dire, je vais pas trop révéler, mais en fait, on s'en extrait aussi parce que c'est le milieu qui vous rejette. Et en ça, je trouve que ça va un peu à rebours de tous les récits qu'on voit habituellement au cinéma sur les transfuges de classe ou les changements de milieux sociaux. Et tout ça est porté par l'incandescence vraiment des deux jeunes acteurs et de Damien Bonnard et Artus, qui est très très convaincant dans un rôle en total contre-emploi. Et en effet, Amaury Fauché et Saïd El Alami portent le film de manière extrêmement émouvante pour moi.
Xavier, t'as aimé ?
Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une des révélations, une des réussites de l'année. C'est un des deux films, d'ailleurs, issus de la semaine de la critique dont nous allons parler ce soir. Et on peut vraiment saluer le travail d'Ava Cahen et de toute son équipe, parce que, c'est pas pour faire de la lèche, mais elle a fait un boulot remarquable cette année. Et effectivement, je trouve que La Pampa, c'est un film qui a l'air d'eux et qui n'est jamais là où on l'attend. Je vous suis très reconnaissant de ne pas avoir été là où tous les journaux sont allés pour révéler le nœud de l'histoire, même. Parce que je trouve que c'est dommage, nous, on l'a vu quand même dans un état de virginité. Et ça participe vraiment à un des effets de surprise. Mmh. Après, alors c'est l'inverse du brutaliste, pardon, j'y reviens, mais c'est-à-dire que le récit n'est jamais au service de la mise en scène, mais la mise en scène est toujours au service du récit. Il y a deux scènes qui sont absolument magnifiques. La scène d'ouverture, où effectivement, ils seront sur une moto, ils vont traverser un croisement très dangereux, et là, je trouve que la mise en scène construit une tension qui va tout de suite couper l'herbe sous le pied sur le joli petit fils. Et puis, il y a une scène de piscine, et on va quand même citer l'autre comédienne, Léonie Dahan-Lamort, qui est absolument formidable, qui vient de Nancy pour les vacances et qui tombe devant des mecs d'une bêtise bêtises absolument sans nom qui sont hors temps alors que le film est très contemporain et ça donne un moment absolument magnifique. Mais attends, mais j'ai le droit de parler.
Non,
c'est moi le méchant maintenant.
C'est moi qui accélère, c'est moi qui vous fais accélérer un peu pour qu'on ait le temps de parler de tous les films.
Ariane. J'allais très vite puisque tout a été dit ou quasiment. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est parce que vous avez tous parlé des surprises, des moments. Enfin voilà, il y a des scènes qui sont hyper importantes. On se dit oulala, casse-gueule. Et à chaque fois, il prend un virage, il y a une espèce d'embardée, de déviation. Et ce que j'aime, moi, c'est que ça n'est pas artificiel. C'est-à-dire que je trouve ces embardées, ces déviations, ces virages épousent exactement le parcours des personnages qui, eux-mêmes, veulent sortir du déterminisme qui les ramène sans arrêt sur une ligne très droite alors qu'ils veulent aller ailleurs, ils veulent partir. Bien sûr, ils sont adolescents. Mais je trouve d'avoir trouvé cette idée d'un récit qui nous surprend sans arrêt en déviant le cours de son récit classique pour des personnages qui, eux-mêmes, veulent dévier, veulent sortir des parcours pour lesquels leur père, parce que quand même, il y a des pères quand même très puissants, même quand ils sont absents, veulent les assigner. Ça, au moins, c'est super intéressant.
Sans jamais, d'ailleurs, accabler quelques personnages que ce soit dans toute l'histoire. Voilà. Un spectateur ou une spectatrice, pour parler de La Pampa d'Antoine Chevrolier dans Le Public.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour.
Moi, ce film, il m'a aimé plus que je ne pensais, car il met en lumière un sujet dont on ne parle pas assez. J'ai apprécié le fait qu'on assiste à l'histoire du point de vue de l'ami et non de la personne discriminée. Cependant, il y a une scène d'intimité qui m'a vraiment choquée, car c'était filmé en gros plan. Je comprends son importance dans l'histoire, mais je pense qu'elle aurait pu être tournée d'une autre manière.
Et je vais aussi vous demander votre âge.
J'ai 16 ans.
Voilà, donc c'était les critiques en herbe du Masque et la Plume. On va donc passer à un registre totalement différent avec une héroïne de comédie romantique, désormais quinquagénaire, veuve, mère de deux enfants, qui fait cramer les pattes et dont le living room n'est pas loin du chaos. Bref, bienvenue chez Bridget Jones. Le quatrième et dernier volet des aventures de Bridget est sur les écrans cette semaine. Il s'intitule « Bridget Jones, folle de lui », un titre un peu désuet qui soulève cette question. Près de 25 ans après la sortie du premier film, Bridget est-elle encore d'époque? En tout cas, elle s'est mise aux applis de rencontre sous la pression d'une amie en ces termes: veuve éplorée, cherche éveil sexuel. Renée Zellweger est toujours Bridget. On retrouve Hugh Grant et Colin Firth, ou plutôt son fantôme, et le jeune Léo Woodhall. Le tout est réalisé par Michael Morris et, j'oubliais évidemment, Emma Thompson. Xavier.
Je crois que j'ai jamais vu une photo aussi laide l'histoire de ma vie. Mais vraiment, je l'ai vue hier en salle. Non, j'ai beaucoup de reproches au brutalisme, mais formellement, le film est impeccable. Là, je dois avouer que je vais pas la citer quand même, la directrice de la photo, ce serait très méchant, de Suzy Lavelle. Oh merde, pardon. S'il n'y avait que ça, la mise en scène, bon, on dirait une mise en scène de dramatique radiophonique, c'est-à-dire que ça ou rien, ça change pas.
Ah bah d'accord.
Et alors, Bridget Jones, maintenant, à 50 ans, voilà, elle est veuve, elle s'est mise sur une application de rencontre, et elle rencontre un jeune. Et donc, c'est l'épisode Cougar. Waouh ! Alors, évidemment, elle s'est trouvée une espèce de blondine avec une tablette de chocolat. Bon, bref, aucun intérêt. Tout le monde fait waouh ! Alors, elle le porte comme un sac à main. C'est-à-dire qu'elle le montre à tout le monde. Regarde. Il a le tiers de mon âge, mais tout va bien. Alors, après, le jeu de Bridget Jones, enfin, de Renée Zellweger, est un peu compliqué parce que, comme elle ne peut pas ouvrir les yeux et la bouche en même temps, c'est. Non, je vous jure, moi, je la regardais, j'avais mal pour elle. C'était vraiment dommage.
Ouais, ça,
et puis, quand
bon,
même,
ça.
Le film. Et alors on se dit, c'est très bien, allez, les nanas, 50 ans, un petit jeune, tout va bien, elle s'éclate, elle se rase la foufoune, puisqu'à un moment on nous le précise, on n'avait rien demandé, mais pourquoi pas. Et puis en fait, le film, dans la dernière demi-heure, fait un volte-face moralisateur, parce que madame est veuve, parce que madame a des enfants en bas âge, et qu'on ne peut pas non plus coucher avec un mec qui n'a que 5-6 ans de plus que le dernier, et elle va se mettre avec un père potentiel, rassurant, et on va bien reproduire le schéma familial hétéronormé. Et là, on s'est dit, mais elle est où la subversion de Bridget Jones ?
Elle est où la subversion de Bridget Jones ? Est-ce que tu as une réponse, toi, Ariane ?
Non, parce que j'ai jamais trouvé que cette saga était subversive. Je trouve qu'elle colle complètement
elle
à l'époque.
Comme
même quand elle avait 30 ans, elle nous racontait quand même l'histoire d'une femme qui était, certes, elle picole, certes, elle couche, certes, machin, etc. Mais en même temps, elle est obsédée par son apparence. Alors, on a eu la version ronde quand elle avait 30 ans. Là, on a la version tablette, vraiment de chocolat, parce qu'elle est hyper musclée, hyper mince, hyper affûtée.
Ah bah, elle fait du pilote.
Donc, on voit bien que ça suit.
et une mode, et aussi, je trouve, une assignation de la femme à être de toute façon toujours obsédée par son apparence. Donc, moi, je ne pense pas du tout que ça soit un film transgressif. En revanche, j'ai trouvé que cette... Parce que c'est quand même une comédie romantique.
J'ai dit donc subversif, je ne suis pas allé aussi loin que...
Bon, alors, subversif, ça n'est pas non plus subversif. En plus, la façon dont elle la joue façon clown, sans arrêt.
Mister Magoo.
Il y a beaucoup de mimiques.
Mister Magoo.
Oui, c'est vraiment ça. Voilà, c'est entre la godiche et le clown.
Elle est gauche, on ne sait pas où elle va. Elle essaie d'être drôle, mais elle n'y arrive pas.
Nicolas, elle a toujours fait comme ça. Il n'y a rien de neuf.
Oui, mais à 30 ans, ça passait pour une rigolote à plus de 5 ans.
Mais je voudrais porter quand même une nuance, c'est que je trouve, moi, je me suis moins... Parce que franchement, je m'ennuie un peu quand je regarde ça. Tant qu'à faire les comédies anglaises, je préfère celles qui sont écrites par Richard Curtis.
C'est le problème.
Mais... Je trouve que cette fois-ci, peut-être parce qu'elle a 52 ans, peut-être parce qu'elle est veuve, peut-être parce que voilà, il y a un autre parcours autour d'elle. Il y a une espèce de mélancolie qui s'insinue dans le récit, qui est beaucoup plus intéressante que ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Je dis pas que ça lui donne de la profondeur, mais je trouve qu'il y a une question qui est posée, et une question que moi je trouve intéressante, c'est quelle est la durée acceptable, pas forcément pour soi, mais pour les autres, d'un deuil. Et c'est exactement la question qui est posée dans le film, et que je trouve, bien sûr, que c'est pas, voilà, c'est pas un film philosophique ni métaphysique, mais quand même, ça colore le récit tout le long, et de fait, le fait qu'en plus elle ait 50 ans, ça aussi pose une question sur est-ce que, voilà, à 50 ou 55 ans, on a droit à une deuxième chance, ou est-ce qu'on est veuve et on reste invisible et on reste en dehors du marché. Moi, je trouve que c'est intéressant.
Pour conclure, Charlotte et Nicolas.
Alors moi, le film, en fait, m'a fait l'impression, j'étais très contente d'aller le voir. J'étais assez excitée et vous savez, c'est un peu comme quand on retrouve une vieille copine d'enfance qu'on n'a pas vu depuis 25 ans. On déjeune, on est hyper heureuse d'aller à ce déjeuner et en fait, on n'a plus rien à se dire. Vraiment, je suis passée complètement à côté. En effet, son côté maladroit, gaffeuse, était assez irrésistible ou charmant à 20 ou 30 ans. Là, à plus de 50, elle paraît complètement tarte et nunuche. C'est pas possible. Et puis, en effet, ce film est quand même sur un paradoxe très post-MeToo 2025, c'est-à-dire dire que à la fois son jeune amant lui demande la permission de l'embrasser et en même temps l'épanouissement de la femme ne va passer que par les bras d'un homme, ce qui est totalement rétrograde. Et là où je retrouve Xavier, c'est que quand même les scénaristes lui mettent dans les pattes un jeune et bel amant. On se dit ah bah tiens, il y a l'occasion d'être un petit peu moderne et disruptive. Eh ben non, faut qu'elle termine avec le vieux de son âge, c'est terriblement
le
moralisateur.
Vieux charmant quand même,
oui charmant, mais elle aurait pu être avec les deux ou rester avec le jeune ou être avec les deux, je sais pas, quelque chose d'un peu moderne. Et pas du tout. Il y a, bon, il y a quand même Hugh Grant qui a toutes les répliques rigolotes du film.
Non, c'est Emma Thompson qui les a.
Et Emma Thompson, elle est formidable.
Mais deux heures, c'est long, c'est long.
Nicolas.
Non, mais ça dure plus de deux heures en plus. C'est le banquier de Zellweger qui est content parce qu'elle était, elle avait disparu. Elle revient à son assurance vie avec Bridget Jones. Elle revient là, pouf, pouf, pouf. Tiens, je vais remettre un peu de beurre dans les épinards. Non, mais c'est terrible parce qu'en plus, c'est un film qui se veut épouser l'air du temps et l'âge de son héroïne. Alors que ce dont on se souvient, c'est les 4-7 de Hugh Grant en vieux beau face à sa finitude.
Il y a beaucoup d'autodérision.
Très, très drôle. Et effectivement, c'est les chaînes chez la gynéco avec Emma Thompson.
Emma Thompson dans le rôle de la gynéco.
Voilà, Emma Thompson dans la gynéco et elle emmène sa fille chez la gynéco parce qu'elle a un problème, enfin sa petite fille, enfin bon, voilà, bon, c'est la teneur du gag. Non, c'est très très laborieux et assez éprouvant. Je rejoins mon ami Xavier Le Herpeur. Allez voir The Brutalist.
Mais depuis quand
vous êtes amis, ça y est.
Une intervention du public pour Bridget Jones, folle de lui, de Michael Morris.
Bonjour.
Une petite voix,
on vous écoute.
Je m'appelle Camille Morillon. Et je suis avec deux de mes camarades de classe, Inès et Maëva, du lycée Lucie Aubrac. À Courbevoie, nous sommes allés voir le nouveau Bridget Jones, un film qui nous a beaucoup plu, par son comique, mais aussi car il nous a touchés, notamment dans une des scènes qui nous a beaucoup marqués, c'est celle du lancer de ballon de Bridget et ses enfants. Selon moi, ce moment symbolique marque enfin son acceptation du deuil en laissant le ballon s'envoler. Elle semble prête à avancer sans pour autant oublier son mari. C'est un instant à la fois simple et émouvant qui résume parfaitement l'évolution de son personnage.
Je crois qu'on est nettement en présence d'un conflit de génération.
Bravo.
C'était donc Bridget Jones de Michael Morris et on termine avec La mer au loin, réalisé par Saïd Hamish Benlarbi, dont c'est le deuxième film. Nous sommes à Marseille, au début des années 90, avec un groupe de quatre clandestins. Ils ont quitté l'Afrique du Nord, le Maroc ou l'Algérie, pour tenter leur chance en France. Parmi eux, il y a Nour. Entre squat et vente à la sauvette sur les marchés, Nour se fait arrêter. Il est confronté à Serge, un flic qui va lui présenter sa femme, et on passe du film de bande à un trio sans perdre de vue les autres. Alors qu'on s'attend à une chronique sociale de l'immigration, Saïd Amish Benlarbi signe aussi un mélodrame, le récit d'un parcours intime avec le rail comme moteur. Et parmi les scènes mémorables de ce film, il y a l'écoute d'une chanson dans une voiture à l'arrêt la nuit, l'écoute d'une chanson qui dit tout du lien qu'on peut avoir avec un pays. Et puis il y a la fête, la danse qui scande ce récit de l'exil déployé sur 10 ans, avec en fond la France des années 90, le sida qui continue de tuer, la Coupe du Monde de 98, Ayoub Greta et Nour, Grégoire Collin joue Serge, et Anna Mouglalis interprète Noémie, magnifique personnage de femme amoureuse et libre. Ariane.
Alors moi, c'est vraiment un film qui m'a foudroyée. Mais je l'ai vu moi deux aussi. Fois, je pourrais le voir une troisième fois. Je pense que ça aura toujours le même effet. Bon, le film précédent déjà de Saïd Amish, Retour à Bolène, était déjà très remarquable. C'était vraiment un petit bijou. Là, il y a tellement de choses à dire sur ce film. Je dirais que d'abord, il est d'une beauté incroyable. Il y a un travail sur l'image qui est absolument magnifique.
Sur la lumière, sur le visage.
Lumière. Et il y a une ampleur aussi romanesque. C'est un film qui joue la carte du temps et de la durée. Et ça aussi, c'est très beau. Tu parles d'un mélodrame. Moi, je pense que c'est aussi une éducation sentimentale. Mmh. Et c'est très touchant par rapport à ça, parce que ça nous parle d'une époque qui a été très peu montrée par rapport à ce thème de l'exil. C'est-à-dire qu'on a beaucoup documenté au cinéma la période des années 60, de la décolonisation, et voilà, etc. On parle beaucoup aussi aujourd'hui de la problématique des migrants, et c'est normal. Mais cette problématique dans les années 80-90, a été très peu montré, aussi bien en France que de l'autre côté de la Méditerranée d'ailleurs. Donc déjà, ça suscite notre curiosité. Après, il y a ce personnage, le héros, qui est un homme qui est plutôt réservé, qui est doux, qui est présenté comme un solitaire. Et en fait, tout le film ne cesse que de nous parler de liens avec le pays qu'il a quitté. Et il ne l'a pas quitté pour des raisons économiques en plus. Il l'a quitté parce qu'il était lui-même en quête de liberté et qu'il voulait s'affranchir de toutes les assignations du Maroc de l'époque. Quand on est un homme, on doit se marier, on doit, etc. etc. Il voulait aller voir ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça le rendait heureux. Et puis il y a ce couple absolument mais magnifique et tellement original dans le cinéma français, avec ce flic bisexuel qui lui aussi est en quête de liberté par rapport à son métier, par rapport à sa famille. Il y a une scène avec son père et son frère, mais qui est absolument incroyable, dans l'antichambre de son appartement.
Et ces deux immigrations qui se télescopent.
Mais bien sûr.
L'immigration italienne et l'immigration
absolument.
Venue d'Afrique du Nord.
Absolument, et ce sont des immigrations méditerranéennes. Donc, avec les rôles sont quand même tous vraiment très figés, le père, la mère, etc. Et puis, il y a cette femme libre au milieu. Anna Mouglalis, je pense qu'on ne pouvait pas choisir meilleure actrice pour incarner ce personnage. Je pense que c'est le plus beau rôle qu'elle ait jamais eu.
Ouais.
Et ne serait-ce que pour ça, aller voir ce film qui est inépuisable. Je vous assure, moi, il m'a complètement bouleversé.
Avec la musique comme moteur. Xavier.
Très rapidement, parce que Ariane a tout magnifiquement dit, ce très, 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 très grand film, venu là aussi de la semaine de la critique. Il y a le rail, il y a juste une chose que je me permettrai de rajouter. La mer au loin, on peut l'entendre de deux façons. La mer comme l'acoustique et la mer, M-E-R-E, puisqu'il entretient uniquement par téléphone un rapport douloureux avec cette mer restée au pays. Tout est bouleversant comme le rail, tout est magnifique. Il y a une lumière ouatée qui reconstitue parfaitement les années 80. Il n'a pas été cherché à faire des reconstitutions inutiles. Il est d'une justesse sans nom. C'est un film merveilleux, mais vraiment, c'est le meilleur film de cette soirée.
Charlotte.
Je rejoins complètement mes camarades, mais peut-être je pourrais ajouter aussi que c'est pas tant un film sur l'exil en tant que sujet, mais plus sur le sentiment de l'exil, c'est-à-dire sur cette sensation persistante qui colle au basque du héros. Et cette émotion-là, elle est complexe, elle est mystérieuse, elle est propre à chacun, bien évidemment. Et on va voir ce sentiment se déployer sur 10 ans. C'est extrêmement beau. Ce que je trouve magnifique aussi, c'est que ce personnage de Nour, il est quand même un peu ballotté par la vie. C'est-à-dire, il choisit pas grand-chose. Il flotte, il se laisse porter par le vent au gré des rencontres, des hasards de la vie. Et les rencontres, en l'occurrence, c'est celle de ce couple magnifiquement incarné, vous l'avez dit. Et tout ça est filmé avec énormément de tendresse, de douceur. C'est un film que je trouve, moi, très sensuel et qui m'a vraiment donné envie de réécouter du rail.
Bah oui.
Nicolas.
Oui, bah, je suis désolé, je rejoins mes camarades.
Sois pas désolé.
Bah, oui, non, mais c'est vrai que c'est bien quand on débat un petit peu.
Oui, mais bon, quand ça fait l'unanimité, ça a du sens aussi.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais ce qui est beau, c'est que ce film, c'est une utopie aussi. C'est vraiment. On se dit, ce type, finalement, dans son malheur et cette douleur qu'il porte avec lui et tout ce qu'il laisse au pays, il a quand même la chance de rencontrer ces gens-là. Et j'aurais presque envie de ne pas le raconter. On en a presque un peu trop dit sur le couple qu'il rencontre. Parce que c'est ça qui est beau, c'est qu'à un moment, au début, Grégoire Collin, que moi, honnêtement, je n'avais pas vu comme ça depuis très très longtemps, parce que c'est quelqu'un qui a une carrière compliquée, qui se fourvoie parfois dans des projets un peu bizarres. Et là, vraiment, il est formidable. Et j'ai l'impression que ce film, il vient des années 90. C'est ça qui est assez fascinant. On a l'impression qu'il a même été tourné à ce moment-là. Et la photo de Tom Harari, je pense que c'est de la pellicule. Il y a vraiment un grain comme ça. On a l'impression qu'il a vraiment recréé on a l'impression qu'il a recréé une réalité de l'époque-là. Et moi, c'est une période que j'ai vécue, mais que j'ai pas vécue du tout dans ces conditions-là. Et je trouve ça assez passionnant que le cinéma français s'empare de cette période qui est quand même encore assez vierge dans les scénarios qui sont produits et qu'on voit en salle.
Vite, 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 qu'y a-t-il dans votre cœur pour clore ce masque dédié à l'actualité du cinéma ? Allez-y pour vos conseils, donc, et on commence avec toi, Charlotte.
Alors, mon gâteau préféré, c'est le titre du film. C'est une tragicomédie qui assume complètement les codes de la comédie romantique, mais où le moindre geste, le moindre non-dit revêt une dimension politique extrêmement forte, puisque c'est l'histoire d'une femme qui vit seule, elle a 70 ans, et elle décide de réveiller son cœur et sa libido en provoquant la rencontre avec un chauffeur de taxi qui lui plaît bien. Et la soirée qu'ils vont passer ensemble, c'est le film. Et tout ça se passe à Téhéran. Alors, pour nous, ça n'a l'air de rien, sauf que filmer une femme qui vit seule, qui n'a pas de foulard sur ses cheveux, qui parle de sa sexualité tout en buvant du vin, autant vous dire que ça fait beaucoup de provocations pour le régime iranien. Le film est co-réalisé par Mariam Mogadam et Betash Sanaeda, et c'est vraiment une petite pépite. Ils sont malheureusement assignés à résidence, ils n'ont pas pu accompagner le film à la dernière Berlinale, où il a eu le prix de la critique internationale, ni dans tous les autres festivals en France. Il faut découvrir ce film, mon gâteau préféré.
Et c'est sorti. Ariane.
Alors moi, je vais vous parler d'une série, mais d'une série qui a été écrite et réalisée par un cinéaste que j'aime beaucoup. Un cinéaste discret, modeste, mais d'une précision et d'une justesse chaque fois formidable. C'est Philippe Faucon. La série s'appelle Nismet. Elle va bientôt être sur la plateforme d'Arte à partir du 20 février. Et Nismet, c'est le prénom de son héroïne. C'est une adolescente de 16 ans, une héroïne fugueuse. Ça va peut-être intéresser nos jeunes amis. On la rencontre au départ, elle est saisie alors qu'elle est coincée dans une cité entre une mère dépressive, un beau-père violent, on se dit oulala. Et en fait, pas du tout, ça n'est pas du tout un parcours de ténèbres, c'est un parcours de lumière, parce que Nismet est une héroïne qui a un instinct de survie absolument extraordinaire, irrésistible. Je vais donner le nom aussi de la comédienne qui l'interprète, que je pense qu'on va la revoir, c'est obligatoire. Elle s'appelle Emma Boulanoir. Elle est d'une lumière étonnante. Le film, du coup, porte cette grâce et cette lumière, et ça nous raconte juste un parcours de liberté, d'émancipation. Je redis la date, c'est à partir du 20 février et le 27 février sur la chaîne Arte.
Nicolas.
Moi, il y a un bon petit thriller journalistique qui est sorti et qui, je crois que ça marche très bien, qui s'appelle... Vous vous souvenez, bien sûr, tous des JO de Munich de 1972, avec la prise d'otage et par des terroristes de Septembre Noir des athlètes israéliens. Et là, c'est un film qui se propose, qui s'appelle donc 5 septembre, qui raconte cet événement, mais à travers le regard de l'équipe d'ABC qui avait été envoyée à Munich pour couvrir les événements, et qui va se transformer, une équipe de sport, de journalistes sportifs, qui va se transformer en équipe de news en direct à cause de cette prise d'otage. Et ça raconte, en fait, le film nous raconte, en gros, nous dit que c'est à partir de là qu'est née un peu l'information spectacle, l'info spectacle, et la première idée de chaîne d'infos en continu. Et c'est très bien mené. C'est pas un grand film, un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment un solide thriller qui tient son point de vue et son propos jusqu'au bout, et qui fait quand même réfléchir sur effectivement la manière dont aujourd'hui sont traités dans ces chaînes d'infos continues qui nous inondent à longueur de temps. Il y a un moment, un personnage qui dit une chose très juste, qui dit, est-ce que si les terroristes tuent quelqu'un en direct, qui est-ce qui écrit l'histoire ? Est-ce eux ou est-ce nous ? Et ça, je pense que c'est à méditer avec
5 septembre, donc de Tim Fellbaum.
Xavier ?
C'est une très bonne semaine pour le cinéma italien. J'en ai ras-le-bol qu'on l'enterre régulièrement alors qu'il est extrêmement vivant. La preuve avec Les Damnés de Roberto Minervini, qui est un film absolument magnifique, formellement d'une intelligence sans nom, qui nous ramène en 1862 au moment de la guerre de Sécession et qui filme une colonne d'hommes face à un ennemi invisible. On peut penser au désert des Tartares, bien évidemment, de Buzzati. C'est un film remarquable sur comment le réalisateur italien, mais installé aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, décortique à la fois les valeurs fondatrices américaines, et on est malheureusement face à leur résurgescence la plus violente, et s'interroge sur le film de guerre et le western comme film de propagande, effectivement, sur l'idéologie. C'est non seulement d'une beauté absolue, époustouflante, et c'est d'une intelligence qui l'est tout autant. Ne manquez pas cette merveille.
Les Damnés.
Les Damnés.
Et je termine aussi avec du cinéma italien, rapidement, pour le temps qu'il me reste, avec Prima la vita de Francesca Comencini.
C'est super.
Pas seulement pour le plaisir très simple d'entendre parler italien pendant deux heures, mais surtout parce que c'est le film d'une relation entre un père et sa fille, Luigi Comencini, le cinéaste de l'enfance, comme on dit, et sa fille, devenue cinéaste à son tour. Et le parti que prend Francesca Comencini, c'est de ne les faire exister que deux. Le reste de la famille n'existe pas, le décor presque n'existe pas non plus, puisqu'ils sont parfois dans un appartement quasi vide. Et il y a une histoire, évidemment, filiale d'amour très forte entre eux, mais aussi beaucoup d'incompréhension, d'autorité, de complexe, d'infériorité, jusqu'à ce que cette jeune femme s'émancipe. Et ce qui les réunit, c'est l'amour du cinéma. Et il y a une image qu'on garde en tête très longtemps, c'est celle d'une petite fille qui court dans tous les sens, comme perdue, parce que son père lui hurle « Mais t'es dans le champ !» Et quand on est gosse, être dans le champ, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, et ça fait pleurer. Voilà, Prima la vita de Francesca Comencini, je vous recommande. Xavier Le Herpeur, Ariane Allard, Charlotte Lipinska, Nicolas Chaleur, merci d'avoir participé à ce masque cinéma. La semaine prochaine, sur cette même scène du théâtre de l'Alliance française, nous débattrons de l'actualité littéraire. Stéphane Combe et Paul Laporte réalisent cet épisode du Masque et la Plume avant le retour de Guillaume Giraud. Et dans le carnet du masque, on souhaite la bienvenue à son petit Marcel. À la technique aujourd'hui, il y avait Marie Le Peintre, Stéphane Touvenin, Jean-Benoît Tétu, et Emma Jarnol. Merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation et préparation de l'émission avec Nina Malray et Célestine Babinet. Rendez-vous dimanche prochain sur France Inter, évidemment.